Écoutez Radio Campus 106,6 FM et comme chaque mercredi à partir de 17h30, vous retrouvez le magazine Lille 1 Info, un magazine qui vous tient au courant de l'actualité de Lille 1 et de ses structures, du fonctionnement de cette université, une très grande université française. Aujourd'hui, on va vous parler dans le domaine médical et scientifique de la création d'une nouvelle prothèse vasculaire à libération prolongée d'antibiotiques. Une nouvelle prothèse donc qui a été l'occasion d'un prix, le prix Oseo Innovation, attribué donc à des structures dont on va parler dans quelques instants avec Bernard Martel. Monsieur Bernard Martel, bonjour.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et bonne année à tous.
Bonne année. Alors, donc, un grand prix qui récompense une initiative et un projet qui a abouti, c'est ça?
Oui, tout à fait. Nous avons obtenu ce prix aux EO en Var au mois de novembre et qui récompense cette année de collaboration entre deux laboratoires universitaires et une entreprise de la région Picarde.
Mmh. Donc ces deux laboratoires universitaires, on peut les présenter ?
Oui, donc je vais me présenter en premier. Je suis Bernard Martel, professeur à l'université de Lille 1, dans un laboratoire qui s'appelle désormais UMET, Unité des matériaux et transformations, et qui s'appelait encore avant le 31 décembre le LCOM, c'est-à-dire le laboratoire de chimie organique et macromoléculaire, qui a disparu lors de la restructuration récente des unités de recherche liées à l'université de Lille 1.
Mmh. Alors, ce prix Oseo Innovation, il est attribué à qui en général ?
Alors, il a été attribué à notre équipe et ainsi que à l'autre équipe partenaire dans ce projet qui est l'université de Lille 2 et donc en particulier le groupe de recherche sur les biomatériaux qui est dirigé par le docteur Hildebrandt et le docteur Nicolas Blanchemain. Donc cette récompense, nous l'avons obtenue au titre des deux laboratoires.
Cette récompense, elle est remise chaque année ?
Elle est remise tous les deux ans.
Tous les deux ans. À qui, dans quel domaine de compétences elle s'adresse à quel...
Ce prix est remis par le groupe français d'études et d'applications des polymères. Donc c'est une association de chercheurs qui travaillent dans le domaine de la recherche des polymères. Donc c'est une spécialité du domaine très large de la chimie en fait qui est concerné.
Et en général, le prix est attribué à des solutions, à des technologies, à des procédés
qui... Alors le prix est attribué à des laboratoires et à des entreprises qui ont mené des projets communs qui ont abouti à un transfert et à une production vers l'industrie, une production industrielle du résultat de la recherche.
Alors là, on est dans un résultat industriel qui intéresse particulièrement l'homme, hein ?
ça intéresse l'homme et le milieu médical en particulier.
D'accord. Donc il s'agit de traiter une des parties des maladies vasculaires ?
Oui, tout à fait. Alors bon, les maladies vasculaires sont assez nombreuses. Bon, en particulier, il y en a deux ici auxquelles nous nous sommes attaqués, si on peut le dire ainsi. Donc les artères peuvent être obturées par des phénomènes de sténose ou de thrombose et elles peuvent également se dilater. Ceci s'appelle un anévrisme. Hein. Donc dans ce cas-là, le tronçon d'artère qui a été lésé, en fait, on va l'enlever et on va le remplacer par un greffon artificiel. Alors, ce greffon artificiel s'appelle donc une prothèse vasculaire. C'est en fait un espèce de tube, hein, un tuyau qui est en matière téflon, par exemple, ou ici, ce qui nous a concerné ici, c'est en fait une structure textile en polyester.
Alors, le corps humain est bourré de tuyaux en tout genre, bien sûr, hein, pour résoudre les problèmes liés à la dégradation de certains de ces tuyaux. Bien sûr, il faut parfois intervenir chirurgicalement. Ça pose quand même des problèmes, l'opération. Et puis aussi, le fait d'implanter, de remplacer, là on arrive à des problèmes classiques, j'allais dire, d'infection, voire de rejet.
Alors, dès lors que dans tout phénomène implantatoire, hein, quand on va ouvrir le corps, on va s'exposer à la colonisation de bactéries. En fait, dans le domaine du vasculaire, il y a à peu près 6% des cas qui conduisent à une infection, ce qui représente à peu près 350 cas par an. Hein, et lorsque ceci se produit, on a de très grandes chances ou de malchance d'aboutir au décès du patient. Donc on travaille là sur un problème vraiment critique.
Quand on parle d'une rupture d'anévrisme, ça veut dire quoi en fait ?
En fait, c'est une artère qui va se dilater et en fait, à un moment donné, elle va céder. Et donc, il y aura une fuite de sang importante dans l'organisme.
Donc, votre solution, elle anticipe ces problèmes-là ou alors, elle peut être...
Alors, on va travailler soit en préventif, soit en réparatoire, si vous voulez. Mm-hmm. Hein, donc, quand on détecte à l'avance, donc on peut agir, faire une opération qui a été préparée, réfléchie, etc. Hein. Par contre, quand l'accident a eu lieu, là, il faut agir dans les heures ou les minutes qui suivent l'accident, si vous voulez. Et l'acte opératoire est assez différent dans chacun de ces deux cas.
La rupture d'anévrisme est souvent, en statistique, assez souvent mortelle, non ?
Oui. En fait, des ruptures d'anévrisme peuvent s'en produire un peu partout, hein, dans le cerveau. Mais là, dans notre cas, hein, on s'est attaqué aux ruptures d'anévrisme au niveau des artères.
D'accord. Donc ces artères, on les retrouve partout dans le corps. Où est-ce qu'elles claquent le plus souvent, j'allais dire, ces artères ?
Assez souvent autour du cœur, hein, ça concerne assez souvent l'aorte, par exemple. Hein. Il y a une opération dont on entend assez souvent parler, c'est le triple pontage. Hein. Donc là, on va intervenir sur des vaisseaux qui sont directement connectés au cœur.
D'accord. Donc effectivement, il y a des tubes, des tuyaux, on va dire, qui sont plus ou moins gros. Donc à partir de quand il y a un vrai danger ? Ça dépend de la taille du vaisseau ?
Oui, en fait, c'est vrai que des vaisseaux, des artères, il y en a de tailles différentes. Hein. Ça peut aller d'une quarantaine de millimètres à 5-6 millimètres, hein, dans les calibres que l'on pourra réparer par une prothèse vasculaire. Hein, donc, en fait, le chirurgien dispose d'un éventail de prothèses qui seront soit droites, soit bifurquées, c'est-à-dire avec des bifurcations, des ramifications, en fonction de l'endroit où on va devoir intervenir.
Alors, ces prothèse, donc, effectivement, elle supplée ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'il existe encore des transplantations de morceaux de vaisseaux
d'artères? Alors, on peut faire des autogreffes, par exemple, donc prélever, par exemple...
Dans la jambe ou...
Dans la jambe et venir implanter là où c'est nécessaire un endroit plus critique. On peut faire éventuellement des allogreffes, mais là, il y a des problèmes de compatibilité. Hein. Donc, la solution la plus courante, c'est la greffe avec un greffon artificiel en téflon ou en polyester.
Donc ça, c'est ce qui se développe de plus en plus.
Oui, tout à fait. Hein.
Donc, effectivement, j'allais dire quelque part, la chimie, on peut dire ça, a supplé les procédés antérieurs.
Oui, bien sûr, hein, de plus en plus. Donc, évidemment, pour pallier aux inconvénients liés aux autogreffes, aux allogreffes, etc. Mm-hmm. Donc là, lorsqu'on a un problème d'infection de ce genre de greffon dans les jours, voire dans les semaines qui suivent l'opération, il faut réintervenir, soit par une antibiothérapie, donc là, on va soumettre le patient à une antibiothérapie pendant plusieurs semaines afin de combattre le germe qui se développe. Et dans les cas les plus critiques, il va falloir réintervenir chirurgicalement, c'est-à-dire faire une explantation du greffon infecté et réimplanter un nouveau greffon sain, avec des probabilités d'échec qui ne sont pas négligeables du tout.
Alors, les antibiotiques, on les connaît depuis maintenant assez longtemps. Chaque antibiotique est relativement spécifique à tel type de maladie, tel type d'infection. Dans ce cadre-là, c'est vrai que nous, on connaît plutôt les antibiotiques qu'on utilise par voie orale ou par voie veineuse, intraveineuse, on va dire. Hein. Mm-hmm. Est-ce que vous avez une technique qui permet de cibler un point précis du corps, d'envoyer la dose au bon moment où il faut?
Alors, si on délivre l'antibiotique par voie intraveineuse, l'antibiotique va se balader entre guillemets dans tout le corps. Il ne va pas agir de façon ciblée. Hein. Donc notre système va permettre d'absorber l'antibiotique sur le greffon lui-même, et il sera libéré in situ, là où il y a le plus de risques de nouvelles infections. Mmh. Alors, les interventions réparatrices, on va dire, quand il y a eu un cas d'infection, elles présentent un coût très élevé, parce que... il faut immobiliser le bloc, le chirurgien, la chambre, éventuellement pour prolonger l'hospitalisation du patient. Et puis, on va administrer un traitement qui va présenter un coût également. Donc, il y a, en dehors de tous ces facteurs de santé et de confort pour le patient, il y a aussi un facteur économique qu'il ne faut pas négliger. Et là, notre projet a permis de s'attaquer à cet aspect-là qui est très en cours en ce moment.
Mm-hmm. Alors, je vais poser une question stupide, mais ça, c'est ma façon de faire obligatoire. Pourquoi, à titre préventif, on ne met pas directement au moment de la greffe une dose d'antibiotiques dans l'environnement?
Alors, justement, c'est là l'intérêt de notre travail. On peut le faire, parfois ça se fait. Mais le problème, c'est que cet antibiotique va être absorbé immédiatement par l'organisme et il ne va pas être retenu dans cet environnement-là. Hein. Il va diffuser assez rapidement dans le sang, dans les autres organes. Donc cette solution-là, elle paraît évidente, mais elle n'est pas vraiment efficace.
Alors, cette infection, ce rejet, ça se fait dans un délai de combien? Quand est-ce qu'on commence à voir les premiers symptômes de ça?
Dans les jours qui suivent l'opération, hein, on s'en aperçoit par des fièvres persistantes, donc qui sont un facteur qui indique bien très souvent la présence d'infection. Après, donc, on fait quand on a ce doute, on fait des analyses pour détecter la présence de bactéries. Mmh. Hein, donc, on a les moyens de détecter. Ceci dans les jours qui suivent l'infection. Alors, l'idéal, en fait, hein, c'est que le greffon libère un antibiotique pendant plusieurs jours, hein, suivant l'opération, pour être certain d'éliminer tout risque de prolifération bactérienne autour de ce nouveau greffon qui vient d'être implanté. Alors en fait, pour ce faire, il existe, je vais vous dresser un petit peu l'état de l'art dans ce domaine, hein, il existe déjà sur le marché quelques prothèses qui ont des propriétés antibactériennes. Alors, elles sont activées avec des sels d'argent, par exemple, qui sont connues, hein, mais pas seulement dans le domaine vasculaire, mais dans les sous-vêtements, dans les chaussettes, anti-odeurs, etc. Hein. C'est un agent antibactérien assez connu. Il y a une autre prothèse qui est également fonctionnalisée avec un antibiotique, elle, qui s'appelle la rifampicine. Mais en fait... ces deux prothèses qui sont déjà sur le marché, qui sont donc des produits concurrents de celles de notre partenaire, présentent ce qu'on appelle un spectre d'activité assez étroit. C'est-à-dire, quand il y a une infection, vous avez par exemple un staphylocoque qui se développe, hein, et ça, donc, c'est une bactérie qui appartient au domaine des bactéries gram-positifs. Vous pouvez aussi être infecté par une bactérie type Escherichia coli qui, elle, est dans le spectre des grammes négatifs. Donc, par exemple, la rifampicine, elle sera efficace seulement contre le staphylocoque et pas contre Escherichia coli. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on vous implante l'une de ces prothèses, elle ne sera pas forcément efficace contre toutes les bactéries que vous risquez de rencontrer.
Donc on va dire qu'il faut une prothèse polyvalente.
Oui, il faut une prothèse polyvalente. Et là aussi, donc, c'est un des points forts de du résultat de notre collaboration, hein, c'est d'avoir une prothèse qui va être polyvalente, parce qu'on pourra la fonctionnaliser avec des antibiotiques qui vont agir contre les grammes positifs et contre les bactéries grammes négatives. Alors bon, les prothèses qui sont sur le marché, hein, elles sont parfois même un peu contestées parce qu'elles ne présentent pas une efficacité clinique vraiment suffisante. Alors, il y a des publications scientifiques qui montrent leur efficacité sur souris, sur rats, sur chiens, mais par contre, en clinique, on n'a pas démontré d'efficacité vraiment évidente. Alors, en plus, pour la prothèse qui est fonctionnalisée à la rifampicine, il faut savoir que la rifampicine, c'est le seul antibiotique qui est capable de lutter contre la tuberculose. Et donc, si on abuse de l'utilisation de la rifampicine, on risque de provoquer des résistances à cet antibiotique. Et donc, on va diminuer son efficacité vis-à-vis de la tuberculose.
Ça, c'est vrai que l'excès d'utilisation d'antibiotiques a produit des ravages, on peut quand même dire.
Bien sûr, bien sûr.
Je vois certains pays qui ne les ont pas encore trop utilisés, dosent beaucoup moins que dans nos pays d'Europe de l'Ouest.
Bah, c'est de plus en plus régulé, hein, l'utilisation d'antibiotiques. On a dû un petit peu encadrer au niveau médical l'utilisation des antibiotiques parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de souches bactériennes résistantes et puis en fait ça a conduit à ces fameux problèmes de maladies nosocomiales qu'on a beaucoup de mal à résoudre dans les hôpitaux, même en France où on a une médecine de pointe, on a quand même énormément de problèmes contre ce phénomène.
Alors, encore une question stupide, est-ce que la résistance aux antibiotiques, donc due au fait de l'excès de leur utilisation, se transmet d'une personne à ses enfants ?
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais il me semble que la réponse est non.
Bon, donc on peut avoir un peu d'espoir sur les prochaines générations.
Oui, bien sûr. Oui, oui. En fait, bon, par contre, la résistance, elle va se transmettre entre les générations de bactéries.
D'accord.
Donc c'est plutôt la bactérie qui est résistante non pas le patient.
En fait, les bactéries se reproduisent tellement vite qu'elles vont plus vite que l'homme à s'adapter à de nouveaux contextes.
Se multiplient extrêmement rapidement.
Alors, est-ce qu'on peut rapidement présenter l'historique de votre collaboration avec vos partenaires ?
Oui, bien sûr. Alors, notre laboratoire travaille sur une molécule qu'on appelle la cyclodextrine depuis 1989. Alors, la cyclodextrine, c'est ce qu'on appelle une molécule cage. Elle est dérivée de l'amidon et c'est une molécule qui a un peu la forme d'un panier de basket, si vous voulez. Et elle est capable d'encapsuler des molécules telles que des médicaments et de les libérer. Donc c'est sur ce concept-là que nous avons travaillé. Alors en 1989, notre laboratoire a déposé un brevet sur la fonctionnalisation de textiles par la cyclodextrine.
On peut peut-être redire le nom de votre laboratoire ?
Donc maintenant c'est l'UMET, Unité des matériaux et transformation. Et donc cette cyclodextrine est fixée grâce à un procédé de chimie verte, de non polluant, et qui est a priori facilement utilisable en industrie. Alors, en 2001, nous avons débuté une collaboration avec le groupe de recherche sur les biomatériaux de l'Université de Lille 2. Parce que nous avons pensé que, un textile qui serait fonctionnalisé par une cyclodextrine serait capable de capturer, de piéger des antibiotiques et de les libérer. Alors, immédiatement, on n'avait pas une idée d'application, mais c'est venu très vite lorsque nous avons rencontré la société Pérouse, une société Picarde, par l'intermédiaire du professeur Roulon, qui est un chirurgien vasculaire qui est donc au CHRU de Lille et qui est également chercheur dans le cadre du groupe de recherche sur les biomatériaux. Donc le professeur Roulon, qui a l'habitude d'implanter donc des dispositifs vasculaires, nous a permis donc de rencontrer cette société et d'élaborer un petit peu un plan, un programme de recherche visant à développer une prothèse à libération contrôlée d'antibiotiques.
Voilà, donc là on est dans le cadre d'un cahier des charges, il y a un déroulement. Est-ce que tout est abouti ou est-ce que vous cherchez encore avant des mises sur le marché ?
Alors actuellement, mon travail dans mon laboratoire sur ce projet-là est pratiquement abouti. Nous en sommes déjà au niveau de l'entreprise au transfert industriel. Mmh. Actuellement, donc on en parlera peut-être après, mais on est déjà en phase d'essai clinique. Alors bon, pour revenir un petit peu au cahier des charges que l'industriel nous a demandé de respecter dans le développement de ce projet de recherche. Donc il faut par exemple mentionner la notion de biocompatibilité de ce greffon et d'hémocompatibilité. En fait, on va modifier cette prothèse vasculaire existante avec un nouveau produit, ce nouveau produit qui est la cyclodextrine. Donc il faut bien montrer qu'après cette modification chimique, on conserve une bonne biocompatibilité. Également, il ne faut pas qu'on provoque d'incidents avec le sang. On peut avoir une lyse, par exemple, des globules rouges qui pourraient être provoqués également par cette fonctionnalisation. Donc il faut bien montrer que notre modification reste bien inerte vis-à-vis des cellules, des organes qui entourent le greffon, et vis-à-vis du sang, parce qu'en fait, la prothèse, je vous rappelle, elle va véhiculer du sang.
Alors, une dernière question stupide peut-être pour aujourd'hui, est-ce que le fait d'être dans un groupe sanguin ou un autre change quelque chose ?
Non, pas du tout. Non, il n'y a pas du tout.
Pas de risque particulier.
Non. Cette question-là n'a rien à voir avec ce problème-là.
Donc là, on peut peut-être parler maintenant de ce transfert industriel et de ses perspectives.
Oui. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur le cahier des charges, parce que bon, il y a la biocompatibilité, l'hémocompatibilité, il y avait également une préservation des propriétés mécaniques du greffon, il faut aussi qu'il conserve sa souplesse, qu'il soit toujours suturable, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a un petit casse-tête ici auquel on a été confronté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas améliorer une propriété en dégradant une autre. C'est quelque chose à travers lequel on a réussi à passer. Ça n'a pas été un projet très simple à mener. Je voulais bien souligner ceci. Mm-hmm. Alors on a abouti au transfert, c'est-à-dire tout d'abord, l'industriel a dû s'équiper d'une ligne de fabrication. Il a dû s'assurer que ce qui était fabriqué chez lui était bien conforme à ce que nous fabriquions, nous, au sein de notre laboratoire. C'est-à-dire que les produits fabriqués chez lui avaient la même biocompatibilité, la même propriété d'absorption vis-à-vis de l'antibiotique, etc. Donc là aussi, on a dû intervenir pour aider l'industriel et puis vérifier que ces produits étaient bien conformes. L'industriel a également dû déposer des dossiers de conformité et obtenir l'autorisation de l'AFSAPS, c'est-à-dire l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour développer des essais cliniques. Et donc actuellement, depuis le mois de juin dernier, des prototypes de cette prothèse sont posés sur des patients au CHRU de Lille et également dans deux autres centres hospitaliers en France.
Donc des bilans positifs expérimentations humaines, on va dire.
Voilà, tout à fait. Et on va aboutir à une mise sur le marché de cette prothèse courant 2010, à peu près vers mi-2010.
Ben voilà, et bien donc Bernard Martel, on vous souhaite une très bonne année, ça démarre bien avec vous, pour ces perspectives réjouissantes pour des personnes malades qui en ont bien besoin.
Tout à fait, et puis pour un chercheur, c'est quelque chose de très valorisant d'avoir des projets comme ça qui sont très utiles et qui peuvent évidemment sauver des vies, c'est encore mieux.
Et encore bravo pour ce prix.
Merci beaucoup.